11h28, je gratte 2 minutes sur le temps qui nous est imparti. J'en profite pour réveiller tout le monde. Ça va ? Ouais, ça va. C'est post-déjeuner, donc difficile conférence post-déjeuner. Le premier qui ronfle, en fait, je vais m'approcher comme ça. Puis je ferai... ça va ? Bonne vieille technique. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que ProDurable se passe bien pour vous. On va attaquer cette conférence... voilà, où on va parler de RSE, évidemment, c'est un peu le... On est dans le bon salon ? Ouais, c'est un peu ça. Et on va parler de RSE et de luxe, et surtout, on veut vous partager un cas concret de comment on avance quand on est une maison de luxe. Donc j'ai le plaisir d'être accompagné et de Marion, qui va se présenter... tu peux pas se présenter tout de suite, tiens, vas-y, présente-toi, s'il te plaît.
Bonjour à tous. Donc Marion Larochette, je suis en charge de la CSR aujourd'hui chez TAG Heuer, après un parcours chez L'Oréal et chez Hermès. Voilà, donc ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que je suis chez TAG Heuer et 2 ans et demi qu'on a démarré une réflexion sur la CSR.
Merci beaucoup. Alors pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, je m'appelle Mine, je suis directeur associé chez Hatch. Et en 30 secondes, Hatch est un cabinet de conseil pur player de l'RSE. On n'a pas d'autres practices, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Voilà. Bref. Et on fait ça depuis 2009, donc ça va faire presque 15 ans qu'on fait ça. Et notre propos, c'est d'accompagner les organisations dans toute leur démarche RSE. Donc de mise en place de stratégies RSE jusqu'à la certification B Corp, par exemple. OK ? Pour en savoir plus, allez sur www.hatch.fr. C'est pour la petite blague et la pub, bien sûr. Le sujet, donc, c'est de parler du luxe et de cette démarche RSE. Donc, ce qu'on fait souvent dans ces retours d'expérience, c'est très pratico-pratique. Donc, on ne va pas vous faire de grandes théories sur ce que c'est qu'une matérialité. On va vraiment vous dire, voilà, nous, quelles sont les démarches qu'on a pu enclencher ensemble. Ça a été vraiment c'est un chemin qui n'est pas fini, mais qui a bien avancé. Enfin, tu nous diras. Et puis un peu de vous expliquer ces grandes étapes-là. On a prévu de tenir dans le temps imparti des 35 minutes et pour rester, avoir un bon 10 minutes à la fin des questions-réponses, parce que ça va peut-être soulever des questions, évidemment, donc n'hésitez pas. Ok, c'est bon ? Ça va ? Pas endormi ? Ça va ? Vous ne voulez pas sortir de la salle ? C'est bon ? Le programme vous plaît ? Tout va bien ? Allez, on continue. Alors, juste peut-être TAG Heuer pour planter le décor. Qui est TAG Heuer ? Et voilà, donc. Donc, quelle est cette belle marque ?
Maison horlogère suisse qui fait partie du groupe LVMH et de sa division montre et joaillerie. Donc une maison qui existe depuis 1860, qui est toujours installée en Suisse, où sont présentes nos manufactures et le siège social. Et pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise, c'est un peu plus de 2000 collaborateurs dans le monde entier, avec des filiales et des magasins sur toutes les zones géographiques, et un siège historique à La Chaux-de-Fonds. Où on a également une école de formation et un institut de recherche. C'est aussi une maison dans laquelle il y a un ancrage historique, mais il y a aussi un institut pour faire de la vraie R&D et se projeter sur l'innovation. Voilà, en quelques mots pour TAG Heuer.
Ouais, très belle maison avec, vous allez le voir, aussi des particularités liées au secteur de l'horlogerie. Deux, trois éléments, donc juste quelques constats qu'on veut poser très rapidement sur le luxe. C'est toujours, quand on aborde les problématiques du luxe, cette dichotomie, cette espèce de on aborde des acteurs du luxe, se pose toujours la question de à quoi ça sert, se pose la question de, mais en même temps c'est génial parce que c'est des produits qu'on ne jette pas, c'est pour le coup, c'est quelque chose qu'on garde souvent, qui se transmet. Donc on a un premier constat qui est quand même de se dire le luxe s'ancre dans un univers du temps long. Ça permet de préserver les patrimoines, de faire... Vous avez vu qu'il y a énormément d'acteurs du luxe qui font revivre des villages aussi, des manufactures en local avec des savoir-faire français, parce qu'il y a vraiment... C'est attaché au Made in France, donc vraiment, vous avez un aspect de non-délocalisation qui est hyper important, donc ça joue un rôle économique très, très fort. On s'attache à des matières premières qui sont souvent rares, nobles, qu'on travaille et qu'on garde. Et puis, c'est au service de l'économie circulaire, souvent, parce que... On jette rarement une montre qui fait 10 000 euros. Généralement, ça fait un peu désordre de le mettre à la poubelle. Donc, ça se transmet, ça se garde, ça se bichonne et ça se répare. Et donc, ça, c'est aussi un élément fort. Deuxième constat, Oui, alors vous allez me dire, il est complètement picousé par ses clients. Mais non, mais on est aussi conscient que non. Il y a aussi des dérives qui sont pointées du doigt. Donc des problématiques de gouvernance, de sourcing, de droit du travail, d'empreinte carbone, de surconsommation. Bon, voilà, vous en avez tous conscience. Je prendrai juste cet exemple de gouvernance parce que peut-être un petit peu moins connu de tout le monde. Rio Tinto, qui est un minier, donc il extrait des diamants, a fait exploser un site aborigène vieux de 46 000 ans en Australie. Voilà, un truc tout bête, hein, c'est juste le patrimoine de l'humanité, 46 000 ans, pour aller extraire des diamants pour une valeur à peu près de 350, genre, je sais plus, c'est millions de dollars ou je sais pas quoi. Évidemment, tollé général du gouvernement australien, etc. La direction de Rio Tinto en Australie a dit oh, on a fait une boulette, désolé. Ben vous savez quoi, on va s'auto-flageller. Shame, shame. Et on ne va pas se verser de bonus cette année. Alors là, deuxième énorme tollé. Et puis alors, surtout les actionnaires ont commencé à dire non, mais là, je pense que vous n'avez pas compris. Et donc, en fait, ils ont viré tout le monde. Voilà, donc ça, c'était un peu plus le vrai shame. Donc le patron de la filiale a été viré, la patronne juridique a été virée, le directeur de la com ont été virés. Et surtout, donc ça c'est le premier point, premier acte. Deuxième acte, ce qu'ils ont fait dans la gouvernance, ils ont intégré dans leur board quelqu'un qui est représentant des aborigènes pour qu'il y ait une voix au sein du comité de direction pour pouvoir dire non, là on est en train de faire des conneries. Et c'était d'autant plus grave, c'est un fait avéré, qu'il y a eu un rapport qui avait été commandité par la direction 2 ans avant pour dire fait-on une connerie. Le rapport disait oui, c'est une connerie. On dit tant pis, on l'a fait quand même. Donc c'était quand même assez énorme comme problématique de gouvernance. En fait. Okay. Donc des dérives. Et puis un troisième constat sur les cibles, c'est que les milléniaux, donc la nouvelle génération, est plus sensible aux enjeux sociétaux. Je ne veux pas faire un grand poncif en disant qu'ils sont évidemment que c'est une génération 100% engagée. Ce n'est pas vrai. Il y a des deux, mais au global, elle est quand même beaucoup plus au courant, sensibilisé, et donc avec des exigences certainement qui vont monter par rapport à des critères liés à la RSE, à la durabilité. Ok. Et puis, une industrie du luxe qui a pris conscience de son rôle, et donc comme vous pouvez le voir ici, plein d'initiatives qui ont, il y en a plein d'autres, hein, mais on en a noté juste quelques-unes qui sont assez intéressantes et qui sont assez dimensionnées. Et donc voilà. Et juste avant d'aborder ça, je reviens en arrière. Tac. Donc, il y en a qui ont voulu prendre une photo, mais pas tout de suite. Donc ça, c'est le constat qui touche au luxe en général. Et puis après, dans le secteur de l'horlogerie, vous êtes aussi confronté à quelques problématiques qui vous sont propres. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes, Marion, s'il te plaît ?
Oui, bon, alors nous, on a, je pense, en principale spécificité d'être sur un produit qui, même au sein de l'univers du luxe, est particulièrement durable. Bien avant l'époque du développement durable, c'était un des claims les plus répandus de l'horlogerie suisse, toutes marques confondues, de parler de la transmission aux générations suivantes, etc. Donc on a cette réalité-là. Après, on a de gros enjeux sur notre chaîne de valeur. L'origine des matériaux, c'est globalement des sujets sur lesquels cette industrie s'était très peu plongée jusqu'à ces dernières années. Et la réalité, alors nous, c'est pas Made in France, c'est Made in Switzerland, mais ça revient à peu près au même. Et comme pour le Made in Italy, comme pour à peu près tous les Made in, la réalité légale derrière le Made in n'est pas suffisante d'un point de vue authenticité, traçabilité, etc. Le Made in Switzerland, c'est aussi 60% de la valeur et ça aboutit à des non-sens, comme par exemple le fait que sur une montre mécanique, la valeur du mouvement est tellement importante que vous pouvez vous permettre d'importer à peu près tout le reste depuis l'Asie, vous aurez quand même le Made in Switzerland. Alors que si vous êtes sur une montre à quartz, si vous voulez avoir le Made in Switzerland, il va falloir que beaucoup plus de composants viennent de Suisse. Donc c'est tous ces sujets-là, d'aller au-delà des labels pour regarder la réalité de la chaîne de valeur et de sa traçabilité et de sa transparence, qui pour moi sont au cœur de l'horlogerie suisse.
Ouais, et puis pour rebondir là-dessus, c'est que quand vous voulez aller plus loin que ce que vous demande la réglementation, vous vous confrontez à un principe de réalité, c'est est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont capables de vous donner les volumes recherchés en acier recyclé, par exemple, si vous voulez faire de l'acier recyclé, etc. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Au contraire, c'est du coup, une fois qu'on a pris conscience de ça, on a envie d'aller plus loin, on peut essayer de faire des partenariats, d'aller challenger les fournisseurs, etc., pour mettre à dispo les ressources nécessaires pour être, entre guillemets, plus durable.
Et y compris en s'alliant aussi, parce qu'effectivement, c'est des problématiques qui traversent toute l'industrie. Et typiquement, pour créer de la capacité de production en Suisse, où, on peut imaginer que travailler à plusieurs entreprises ou groupes aide à relocaliser une partie de la production.
Tout à fait. Donc, du coup, on a un peu planté le décor, vous voyez, l'univers du luxe, et puis avec des problématiques qui sont propres à l'horlogerie. L'idée, après, c'est de dire, quand on a commencé le projet ensemble, un peu plus de presque 2 ans maintenant. Et donc, on a suivi un certain nombre d'étapes. Donc, l'idée, c'est un peu de les parcourir. Et puis surtout, que Marion puisse témoigner de les trucs et astuces et autres choses qui t'ont marqué, qui ont fait que ça a fonctionné. Ou pas, moi, j'espère pas. Mais... et puis après, derrière, pour vous, que ça vous nourrisse et que si vous avez des questions à la fin de cette session, vous puissiez les poser. OK ? Voilà un peu les 7 grandes étapes. Donc pour les faire très rapidement, on commence toujours par un kick-off, une acculturation. En fait, pour nous, en tant que consultants, l'idée, c'est qu'on apprenne vraiment à se mettre au niveau de la culture d'entreprise et du secteur pour qu'on le comprenne vraiment bien. Ensuite, on va constituer un groupe de pionniers. On va revenir en détail sur chacune de ces étapes. Mais on constitue un groupe de pionniers qui va être le groupe de travail référent avec qui on va travailler sur la feuille de route. On va réaliser une vraie consultation quantitative des parties prenantes. Donc, c'est au service de la fameuse matérialité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va consulter de façon quanti. Donc, on a battu un bon record avec toi. Je crois qu'on a eu 1800 personnes qui ont répondu à notre survey. Donc, il y avait la moitié, c'était en interne. Et l'autre moitié, quand même énorme, l'autre moitié des fournisseurs, des parties prenantes externes. Ça, c'était assez canon. Donc, on réalise la quatrième étape, la matrice de matérialité. Et puis après, on élabore et on co-construit avec le groupe de pionniers la feuille de route en choisissant les enjeux prioritaires. Et on va aller plus loin jusqu'à les KPI, les plans d'action. Donc, on a brainstormé avec les équipes opérationnelles pour le faire. Et puis, point 6 et 7, point 6 hyper important, mise en place de la gouvernance. C'est qu'une fois que vous avez des super PowerPoint, on est hyper pro en PowerPoint, on fait des PowerPoint hyper léchés, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et heureusement, ça ne suffit pas. Non, il faut mettre en place la gouvernance pour être sûr que les projets roulent derrière, que ça suive, et que ce n'est pas juste des jolis PowerPoint qui vont dormir dans un placard à la fin. OK ? Donc ça, on va en parler. Et puis 7, après rollout international, nous, on en est à peu près là. On n'a pas encore fait le rollout international, mais on est en train de préparer ce rollout pour que tout ce qui a été fait en centrale, après, se décline sur toutes les files. OK, c'est bon dans les grandes lignes pour vous. Donc, alors après, vous allez voir, ce slide hyper léché, on fait bulle après bulle. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. J'espère que vous pourrez suivre, c'est hyper compliqué. Attention, hein, j'ai fait Polytechnique. Non, je déconne. Donc, kick-off et acculturation, tout simplement, on se met à niveau. Nous, on passe pas mal de temps à faire des entretiens codir.
Est-ce qu'il y a un truc... visiter les manufactures aussi.
Ah ouais, c'était génial, le spa. Non, pardon.
La fondue
savoyarde. Non, mais c'est hyper important. En tout cas, nous, on a énormément appris. On a eu l'occasion d'aller visiter effectivement les manufactures et de comprendre la réalité de ce que c'est qu'une montre de luxe. Et avec le travail de tous les artisans qui sont sur la précision avec laquelle ils prennent les pièces, etc., c'était très apprenant. Je pense qu'en tout cas, pour soit il y a des maisons dans la salle, soit en tout cas, il y a des consultants ou autres. En tout cas, ayez cette démarche d'être très proche du terrain et d'avoir ce principe de réalité. Il faut comprendre ce qui se passe dans la vraie vie. Quoi. Est-ce qu'il y avait un autre élément là-dessus ? Non, c'est la visite.
Comme ça se fait sur plusieurs jours, ça donne aussi lieu à des échanges plus informels dans les dîners. Je pense qu'il y a eu quelques moments où vous avez aussi rencontré d'autres membres du CODIR. Et ça change un peu les bases sur lesquelles part la mission.
Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, au démarrage, on a souvent une première phase où on va faire des entretiens avec tous les membres du comité de direction. L'idée, c'est de leur faire parler de leurs enjeux, pas forcément RSE au départ, mais de leurs enjeux tout court. C'est quoi les cailloux dans la chaussure du moment ? Qu'est-ce qui les empêche de dormir ? Qu'est-ce qui vraiment prend beaucoup de place dans leur charge mentale ? Pourquoi ? Pour comprendre en fait, déjà les enjeux business. Et puis, souvent, dans ces enjeux-là, il y a des enjeux RSE, mais ils ne savent pas que ce sont des enjeux RSE. On a plusieurs fois des exemples de directeurs commerciaux qui vont dire « Moi, la RSE, je m'en moque. » Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Mais qui vont dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de mes équipes. » En fait, c'est un enjeu RSE. Ça s'appelle développement des équipes. Ça s'appelle développement des collaborateurs. Et c'est complètement un élément des piliers de la RSE. OK ? Donc, voilà. Donc, il ne faut pas les braquer sur la RSE. C'est quoi ? Ensuite, tout simplement, on constitue un groupe de pionniers. Alors ça, c'était assez canon, ce qui a été fait. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors l'idée des pionniers, ça a été de recruter une équipe, alors avant tout de volontaires. Donc c'était que des personnes qui, en ayant entendu que qu'on démarrait le projet, s'étaient manifestées d'une manière ou d'une autre pour dire « moi, j'aimerais vraiment beaucoup participer à ce projet ». Et après, on a aussi veillé à ce que ce groupe de pionniers permette de représenter les différentes fonctions et les différentes zones géographiques de l'entreprise, et comme ils accompagnent le projet tout au long de ces différentes étapes, ça a été vraiment extrêmement riche. Et aussi, c'est aussi les premières personnes dans l'entreprise qu'on voit intégrer la RSE à leur quotidien, et donc on les voit évoluer, et je trouve que ça a beaucoup de vertus, parce que pour toutes les personnes qui ont participé au groupe de pionniers, ça a vraiment amené du sens à ce qu'ils faisaient au quotidien. C'est une transformation positive. Et en plus, ça se voit par les équipes qui travaillent avec eux. Et donc, ça crée d'autres envies et d'autres motivations de rejoindre le projet et d'y participer. Donc, c'était très vertueux. Et puis, bien sûr, sur le projet, comme on avait un peu toutes les fonctions et toutes les zones qui étaient représentées, on a même eu des DG de pays qui s'impliquaient dans le projet. Ça nous a permis d'avancer, je pense, en prenant bien en compte les différentes facettes de l'entreprise.
Ça, c'était canon. C'est vraiment hyper embarquant. Les verbatims, c'est une vraie bouffée d'oxygène que de participer aux ateliers sur les sujets de la RSE. C'est pour ça que c'est important de prendre au départ des gens qui sont engagés, qui ont envie de participer, pour pas que qu'ils soient forcés, pour que justement ils y trouvent une respiration et que ça leur donne du sens dans leur quotidien. Deux autres éléments, c'est que le chemin est aussi important que le résultat, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse plusieurs workshops ensemble fait partie de la culturation de ces personnes-là. Et le deuxième effet qui se coule, qui est top, c'est que penser justement l'après, c'est-à-dire qu'on a une super feuille PowerPoint à la fin, mais après il va falloir faire un roll-out. Et les 10-15 personnes qui font partie des pionniers vont être les premiers à être les ambassadeurs de votre roll-out par la suite. Et le fait que ce soit eux qui ont co-construit la feuille de route fait qu'ils sont persuadés. Et donc, du coup, pour le roll-out, ça va être beaucoup plus facile. Vous avez déjà vos ambassadeurs pour la suite. Donc, souvent, nous, on est chez Hatch très. On a un parti pris très fort sur le fait de faire de la co-construction. On a des confrères qui aiment bien faire ça en chambre. Nous, on trouve que c'est une hérésie, parce qu'il faut embarquer l'organisation dès le début et constituer ce groupe de pionniers. Ça, c'est vraiment un marqueur fort et ça a vraiment marché. On en parlera sur la gouvernance à la fin. Pas mal de pionniers qui étaient là au début font partie maintenant de la gouvernance RSE et ça cartonne, quoi. Top. On a fait cette consultation quantitative, donc avec ce fameux record. Donc, dans les différents workshops, on va questionner. Le but des workshops, c'est d'identifier les enjeux matériels de l'entreprise. Donc on avait une liste à peu près un peu moins de 30 enjeux, un peu moins, 27 enjeux. Et ça, on l'a co-construit, on les a trouvés avec le groupe de pionniers. Donc on a plusieurs workshops pour le faire. Vous avez des workshops qui vont réfléchir sur, vous prenez la chaîne de valeur de l'entreprise et vous réfléchissez sur les impacts créés tout au long de la chaîne de valeur. C'est une bonne façon aussi de faire réfléchir le groupe de pionniers sur, il n'y a pas que nous, Tagoyer, il y a tout l'amont, il y a tout l'aval. Donc quels sont les impacts générés par notre activité au sens très large du scope 3 carbone. Donc, on prend toute la chaîne de valeur. Et après, c'est avec eux qu'on va sélectionner les enjeux prioritaires. Les enjeux qui nous semblent les plus importants. Et après, on passe en phase quantitative.
On va les soumettre à la consultation. Ouais. Ouais. Et en plus des pionniers, on avait bien sûr échangé avec le comité de direction sur ces enjeux soumis à la consultation, ce qui était essentiel pour embarquer aussi le comité de direction dans la démarche.
Oui, on a fait une navette permanente entre le groupe des pionniers et puis des touchpoints avec le CODIR pour faire valider, pour être sûr que ça, c'est hyper important, qu'on ne fasse pas tout le travail et qu'à la fin de tout le travail, ils vous retoquent en disant... Et on a besoin, dans ce cas où ce n'était pas le CODIR qui faisait partie du groupe de travail, il y a des cas de figure où vous avez le CODIR qui est le groupe de travail, mais quand ce n'est pas le cas, il faut avoir ces touchpoints pour qu'eux également voient les progrès petit à petit et évoluent dans leur façon de penser. Parce que sinon, le gap entre le groupe de pionniers qui aura fait 3, 4, 5, 6 mois d'acculturation, de réflexion sur ces sujets-là, et le CODIR qui, lui, va donner l'ordre, à signer un chèque et à la fin se retrouve avec un résultat, entre-temps, ils n'auront pas assez évolué dans leur façon de penser. Donc, c'est hyper important de les embarquer, les acculturer, etc. On fait la consultation quantitative. On est allé voir tout le monde, je crois, tous les pays.
Tous les pays, donc tout l'interne, absolument tous les collaborateurs de Tag Heuer ont reçu la consultation. Et puis effectivement, on s'est adressé de manière assez exhaustive à toutes nos parties prenantes externes, donc nos fournisseurs, nos partenaires, y compris commerciaux, wholesale, les auditeurs, les ONG, les organismes de certification. Donc on a vraiment essayé de consulter tous nos interlocuteurs Tag Heuer.
Bon, après, on s'est retrouvé avec beaucoup de tableaux Excel à analyser, mais c'était passionnant. Nous, après, on a pu croiser par pays, par typologie. Le questionnaire est complètement anonyme, mais donc du coup, on a fait un profiling à la fin du questionnaire pour quand même avoir des idées de qui on parlait. Est-ce que c'était des gens qui étaient en magasin, en boutique ou au siège, pour voir s'il y avait des dichotomies de ce type-là. Est-ce qu'il y avait des... On l'a fait par ancienneté chez Tag Heuer pour voir s'il y avait des points de vue qui différait vraiment en fonction de l'ancienneté dans la maison, et puis par géographie, bien sûr. Voilà. Et après, tous ces tableaux-là, en fait, on a fait tout le monde penser la même chose, donc ça, c'était pas mal, quasiment.
Oui, les résultats n'étaient pas très compliqués à interpréter.
Voilà, bon. Non, mais si, c'était hyper compliqué.
Une fois travaillé.
Donc on a sorti la matrice de matérialité, donc je ne vous remonte pas ce que c'est qu'une matérialité. Je considère que là, tout le monde sait ce que c'est qu'une matérialité. Je pense que, comme on est en train de parler de la CSRD, de la double matérialité, maintenant, Mais voilà, on sort cette matrice de matérialité avec toutes ces analyses croisées, hyper importantes, et surtout, on trouve notre fameux carré d'or en haut à droite. Et puis, derrière, on a retraduit ça en feuille de route. Donc, on est allé chercher les engagements principaux. On les a fait par piliers. Alors, on va vous montrer ce que ça donne. On n'a pas mis le wording définitif, c'est encore tout ça est pas vraiment complètement confidentiel, mais voilà, c'est pas finalisé, donc on peut pas vous mettre le wording définitif, mais l'idée, c'est qu'on a les grandes lignes donc on a un sujet. Bon, peut-être que tu veux le commenter, celui-là.
Oui, on a déterminé trois piliers suite à la consultation. Donc un premier pilier sur l'innovation durable, le second qui est beaucoup plus sur le S et notamment les collaborateurs, et un troisième viser l'excellence qui concerne principalement notre supply chain. Donc sur l'innovation, l'innovation étant une valeur très forte chez Tag Heuer, c'est d'intégrer la durabilité dans l'innovation, aussi bien au niveau des produits qu'au niveau des services. Le deuxième pilier, c'est principalement un engagement sur le bien-être au travail, et un second sur la diversité et inclusion, et le dernier sur l'excellence, un engagement sur la réduction de notre empreinte environnementale qui passe avant tout par un bilan carbone, bilan GES, et puis toutes les problématiques de transparence et de traçabilité de notre chaîne de valeur.
Alors, dans cette feuille de route là que vous voyez, alors encore une fois, les wordings, les mots sont pas ceux-là, parce qu'on les a changés, parce qu'on les a, ils sont tout le temps en train d'être remoulinés. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a une batterie de KPI. Derrière chacun des engagements, vous avez entre 3 et 4 KPI avec des dates. Qu'est-ce qu'on fait à horizon 2026, qu'est-ce qu'on fait à horizon 2030. Donc on ne peut pas vous les mettre là parce que c'est les engagements qui restent dans la maison pour l'instant. Ce qui est hyper important, c'est notamment, en tout cas chez Hatch, on s'y attache beaucoup, c'est d'avoir un pilier 1 qui touche à l'offre de produits ou de services de l'entreprise dans laquelle on rentre, parce que c'est là où vous touchez le cœur du moteur de l'entreprise. la partie S, elle va souvent de soi. La partie, on va dire, environnementale, c'est aussi un must-have. Et après, bah, soit souvent dans les fonds d'investissement audit autres, ils disent ESG, le G, c'est la gouvernance. Mais en fait, c'est un peu flou ce qu'il y a derrière. Nous, ce qu'on aime bien, c'est remplacer le G par finalement, on va dire, le modèle d'affaires, le cœur du business. Et comment est-ce que vous arrivez à transformer le modèle d'affaires de l'entreprise? Et donc pour ça, et pour que ça touche tout le comité de direction, Tag Heuer étant une marque hyper ancrée, comme tu viens de le dire, sur l'innovation, bah comment est-ce que dans toutes les innovations maintenant, on va pouvoir commencer à mettre des critères ESG? Comment est-ce qu'on va penser ESG lorsqu'on innove? Et donc, on va mettre un framework d'innovation qui va être complètement différent. Et c'est là où, quand vous commencez à faire ça, vous allez beaucoup plus impacter le modèle d'affaires de l'entreprise. Le reste, presque, c'est de la mesure compensatoire, presque, de vouloir faire... mais c'est hyper nécessaire. Mais avec le premier, vous allez pouvoir aller plus loin dans la transformation de l'entreprise. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas.
Absolument. Oui, absolument. Bah, on est vraiment... Il y a aussi tout un travail pour faire matcher les enjeux principaux et ce qui est vraiment constitutif de l'entreprise et de ses valeurs quotidiennes qui animent tout le monde. Donc, ce qu'on a fait autour de l'innovation, c'était vraiment dans cette optique-là.
Et ce n'est vraiment pas des mots en l'air, parce que, comme le disait Marion en introduction, en fait, la maison Tag Heuer a vraiment un labo de R&D. Et donc, ça nous a aidé à dessiner la feuille de route de la R&D. Et notamment, alors sans vouloir révéler des secrets, voilà, mais c'est, vous savez que les montres, en fait, il y a des problèmes de magnétisme. Si vous mettez une montre mécanique à côté d'un iPhone, ça risque de la dérégler. Donc, c'est comment est-ce que la R&D peut réfléchir? Et donc, problématique de durabilité, les gens ne sont pas contents parce que ça dévie, etc., etc. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir sur des matières premières à l'intérieur de la montre qui sont amagnétiques, par exemple, qui ne vont pas, qui vont pas être souffrir de ce type de situation. Voilà, donc on a mis en place, du coup, toute une roadmap qui permet à la R&D de savoir où aller, parce qu'en fait, ils peuvent... chercher partout, un jour il faut qu'ils trouvent, donc on leur a demandé de trouver par là, plutôt que par là. Voilà. Voilà. Ensuite, alors pour arriver là-dessus, un petit conseil, on a fait pas mal d'échanges avec les sponsors Codir, ça en touche au sujet de la gouvernance, mais en fait, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on a réussi à le faire valider finalement, parce que nous, on travaille avec les pionniers. Tout d'un coup, le Codir, qui a déjà plein de trucs dans le ciboulot. De temps en temps, vous avez le chiffre d'affaires qui ne va pas bien, etc. Donc, comment est-ce que déjà, on a réussi à les embarquer? Comment tu as pu faire en sorte qu'ils valident tous les KPI, etc. Est-ce que tu peux un peu partager? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques?
Ouais.
Qu'on peut échanger dessus.
Ouais, absolument, oui. Je pense qu'il y a effectivement des points importants. Déjà, très en amont, on avait aussi veillé à ce que l'équipe de pionniers soit légitime aux yeux du Codir. Donc, ils avaient été impliqués aussi dans la validation de cette équipe de pionniers. Et puis après, à toutes les étapes, on a vraiment fait des allers-retours entre les pionniers et le Codir, y compris avec des présentations par les pionniers au Codir. Mais l'idée étant vraiment que les pionniers réfléchissaient brainstormer, proposer des idées, et ces idées étaient en permanence et pas seulement validées et enrichies par le Codir. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment aussi important que justement le Codir se sente pas uniquement en position de dire oui ou non, mais de s'approprier aussi les sujets au fur et à mesure, de mettre leurs pattes chacun dans leur domaine, et ce qui fait que pour moi on a vraiment une démarche de co-construction et avec les pionniers et avec le Codir, qui a donné une certaine fluidité et une vraie légitimité aux mesures, au fur et à mesure que les décisions étaient prises. Et ça s'est poursuivi au moment de la mise en place de la gouvernance, où assez naturellement, en fait, on avait déjà instauré un peu ce process d'avancer sur les sujets avec les pionniers et de faire intervenir le Codir en enrichissement et en validation. Voilà, c'était déjà assez fluide et naturel pour eux d'avoir des réunions RSE dans leur emploi du temps.
Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis un point hyper important, c'est que Marion, toi, ton report direct, c'est le CEO. Ça, c'est hyper important de se dire qu'il y a le Codir. Toi, tu avais des touch points dans les comités de direction, mais que tu avais un temps qui était dédié et sanctuarisé avec le CEO toutes les semaines.
Ouais.
Toutes les semaines, tu avais une heure, je crois, c'est ça. Toutes les semaines, Marion avait une heure avec le CEO qui permettait de dire, bah voilà, voilà les sujets. Et ça, c'est hyper important, en tout cas, qu'il y ait ce lien direct pour que vous, bah, pour que ça passe pas comme le huitième sujet de la réunion CODIR, quoi. Donc, quand vous avez accès au ou à la CEO, c'est hyper fort, quoi. Donc ça, il faut essayer de s'en assurer dès le départ du démarrage du projet. Pour parler de gouvernance, on a mis ça en place. Alors, paf, tac, pardon, excusez-moi. Tac, paf. En fait, l'idée, c'est quoi? Ça, c'est toutes les réunions qu'on a mises en place au début. Et toute l'idée, vous voyez que c'est quand même, il y a beaucoup de points. Hein. Vous dites, mais c'est une usine à gaz, votre machin. Non, en fait, c'est que quand vous sortez de 5-6 mois de brainstorm, en fait, on a envie assez vite, et notamment les pionniers, et toi, et toute l'organisation, ont envie de se mettre assez vite en mouvement. Et donc, il ne faut pas être déceptif dans le sens, il ne faut pas attendre 5 mois avant que ça se mette en mouvement. Et puis, il faut mettre en place un rythme assez poussé. Donc, vous voyez que les bullet points rouges, c'est donc, vous avez vu tous les engagements qu'il y avait précédemment. En fait, il y a des sous-engagements et on a fait des task force par engagement pour pas mobiliser tout le monde à chaque fois. Et c'est les points rouges là. Et en fait, au début, c'était quoi? Tous les 15 jours, ils se réunissaient. Et est-ce que tu peux un peu décrire comment tout ça s'est mis en place?
Oui, donc c'est vrai que c'était important au moins au démarrage d'avoir un rythme assez soutenu. D'une part, parce que sur la plupart des sujets, on avait beaucoup de choses à défricher et on a eu beaucoup. Alors on a fixé des KPIs et des objectifs quanti, etc. Mais on avait souvent un problème de T0, c'est-à-dire qu'avant de s'améliorer, il faut déjà connaître son point de départ et on manquait de points de départ sur beaucoup de sujets. Donc globalement, la première année a été principalement consacrée à l'établissement des T0 et concrètement, il fallait s'y atteler, quoi. Donc voilà, c'était une charge de travail assez importante qui nécessitait d'embarquer pas mal de monde. Et l'idée de ces task force, c'est qu'on avait besoin de faire travailler ensemble des gens de plusieurs équipes, de plusieurs services. Et voilà, il fallait vraiment créer ces nouvelles routines, ces nouvelles habitudes de travail sur des nouveaux sujets. Et effectivement, après même pas un semestre, on se rend compte que quand les sujets sont pris, naturellement, on commence à espacer les réunions des task force. Mais au départ, c'était vraiment important de mettre ce rythme-là pour s'assurer que ça retombe pas comme un soufflet et qu'on avance vraiment sur les différentes problématiques.
Finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que les petits points rouges qui étaient genre tous les 15 jours, on faisait un point d'avancement des sujets pour être sûr que c'était pris, que c'était pas genre quand vous savez, la fameuse réunion mensuelle et que vous vous y mettez un jour et demi avant en disant « Oups, j'ai regardé dans mon agenda, c'est dans un jour et demi, je m'y mets. » Au fait, on ne devrait pas se parler. Et donc, en crash, il y a une réunion de 15 minutes sur un coin de bureau. Donc là, pour éviter ça, c'est arrivé à tous ceux qui ont pas mal bossé déjà, pour éviter ça, on a mis une rythmique, voilà, tous les 15 jours. Donc là, maintenant, les points rouges, il y en a qui sont beaucoup plus espacés suivant les groupes de travail. Ce qui est hyper important, c'est de garder ceux du bas, parce que c'est les touchpoints avec le reste de la gouvernance, donc avec le CODIR, les points blancs, et puis les points oranges, c'est... Vous avez des groupes de travail, mais tous ces gens-là, ils ont travaillé ensemble au début, après ils s'isolent parce qu'ils travaillent sur leur sujet, et après il faut leur donner la respiration et leur donner la big picture. Et donc c'est comment on fait des réunions entre pionniers, les 15-20 qui ont participé. Là, tu travailles sur la partie carbone, mais il y en a d'autres qui sont en train de travailler sur le sourcing, etc. Mais ils ont envie d'être au courant parce que ça donne envie. Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à avancer dans mon coin. Et donc, c'est important d'animer cette communauté de pionniers et d'avoir une grande réunion avec tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui pour dire bah, voilà où on en est sur la diversité et l'inclusion, voilà où on en est sur le sourcing, voilà où on en est sur l'ISO, je ne sais plus combien, 14001, voilà, etc., etc. Ok, donc gouvernance hyper importante à bien mettre en place. Sans ça, plouf, ça risque de tomber à l'eau. Et puis bon, bah là, on est en train de préparer le rollout international, donc on ne peut pas trop témoigner, enfin en tout cas sur Otagoyer. Nous, d'expérience aussi avec d'autres clients, c'est hyper important de commencer sur votre marché principal, on va dire, au siège et tout, pour que tout soit bien cadenassé, que vous ayez déjà aussi fait vos T0. C'est vrai que Marion, là, on a eu pas mal de problématiques de... Alors, on veut bien faire un moins X, donc on va mettre sur la feuille de route moins X, et puis une fois qu'on aura vu où est le T0, on remplacera le X par un chiffre ambitieux et atteignable, mais pour l'instant, on n'a pas le T0. Et ça, c'est très lié aussi avec les problématiques liées à la CSRD, c'est qu'il y a une problématique de data, qui est bah, où est l'info, enfin déjà, de quelle info a-t-on besoin, et après, où est-elle, et puis après, comment on la récupère de façon systématique, que ça ne prenne pas 15 plombes à un chef de projet Excel, quoi.
Et c'est assez vertueux, parce que quand on commence à gratter ce sujet-là, il y a un certain nombre de services, ça peut être un directeur financier, que ça intéresse aussi de connaître ce T0 et ces data. Donc ça peut aider à embarquer des gens aussi.
Oui, c'était ce midi, on en parlait, c'est tout d'un coup avoir une vision consolidée de la consommation énergétique de toutes les boutiques retail de Tag Heuer dans le monde. Ah bah ouais, tiens, combien c'est ? Aucune idée pour l'instant. Parce que vous l'avez par pays, souvent, pas toujours. Il y a des pays qui mettent en place des mesures. Donc voilà. Donc là, il y a, par exemple, là, on peut le dire, il y a mise en place dans toutes les boutiques, il y a un roll-out qui est en train d'être fait pour équiper toutes les boutiques.
Toutes les boutiques de compteurs électriques. Et là aussi, c'est pareil, on va commencer par mesurer notre consommation et puis après, on pourra la faire diminuer.
Ouais.
Et puis non, mais enfin moi ça m'a marqué, c'est quand le magasin sur lequel on a testé les compteurs, on s'est rendu compte que plus de 50% de la consommation d'électricité se faisait pendant les horaires de fermeture du magasin. Voilà. Et je crois qu'on n'est pas les seuls. Et en fait, c'est juste des choses qui rentrent pas dans le, qui sont prises en compte par personne à un moment. Donc, voilà, c'est aussi assez vertueux de s'y intéresser. Le T0 permet de changer complètement le scope de ce qu'on prend en compte ou pas.
Donc, c'est assez impressionnant juste de se poser, de regarder, de faire l'état des lieux, et puis après, y a des choses évidentes. Qui apparaissent au grand jour tout d'un coup. Ok, on a tac. Oh là là, on est bon en timing. Il reste 50 secondes, c'est incroyable. On a balayé les grandes étapes. Vous voyez, on n'a qu'une demi-heure, hein, donc 35 minutes. Donc c'est forcément pas super détaillé. Mais merci beaucoup Marion. Et puis on a des questions, j'imagine, dans la salle. Ah, je savais que t'allais. Je t'en prie.
Bonjour, j'ai changé le scope de ma question. Je voulais parler à l'origine de la compatibilité du luxe et du durable, mais vous en avez parlé un peu au début. Et je voulais m'intéresser, vous avez parlé de modèle d'affaires, savoir si vous aviez considéré du coup de passer de l'économie de la possession aujourd'hui à une économie de fonctionnalité qui pour certains est la seule économie viable pour les années à venir.
Alors, on n'en est pas là. On travaille pour le moment à améliorer encore la durabilité, la réparabilité de nos produits. A priori, on est sur des produits qui sont conçus pour vivre plus longtemps que vous. Donc, c'est à ça qu'on s'attelle principalement. Et on suit attentivement ces tendances-là. Pour le moment, sur l'horlogerie, alors en plus, on est... Nous, on a, au sein de l'horlogerie, même suisse, on a un positionnement qui est particulièrement fonctionnel, plus qu'esthétique ou chez d'autres marques. Chez Tag Heuer, on est sur des montres qui sont des montres outils, où la fonctionnalité est très importante. Donc...
Elles donnent vraiment l'heure. Non, mais si.
Elles font deux, trois autres trucs. Mais voilà, c'est moins des montres qu'on va sortir pour une occasion que d'autres marques, par exemple. Donc, c'est pas au cœur de nos réflexions.
Mais il y a un vrai sujet sur la durabilité et sur la réparabilité. Et il faut savoir que vous avez, dans vos manufactures, vous avez Artecad, par exemple, qui est une manufacture spécialisée sur les cadrans. Ils viennent de doubler l'espace dédié à la réparation des cadrans. Voilà, c'est vraiment un élément qui est pris en compte, qui est travaillé de plus en plus, et ils se rendent compte que c'est bien, que c'est porteur, évidemment, et ils le font aussi peut-être pour d'autres marques. Donc il y a plein de réflexions autour plus de la réparation. Voilà, pas encore cet usage.
La réparation chez nous, enfin, en manufacture, et la réparation aussi, de délocaliser la réparation pour moins faire voyager les montres sur lesquelles on doit intervenir, etc.
D'autres questions ?
Encourager des modèles comme Vestiaire Collective ou même vous-même, est-ce que vous encouragez le fait de transmettre, de revendre ces montres qui sont effectivement très grandes, très longue vie, donc qui peuvent avoir plein de vie? Alors, dans plein de mains.
Nous, on agit sur le produit lui-même. Nous, pour le moment, encore une fois, ça va être un peu la même réponse. C'est qu'on se consacre sur la durabilité de nos produits, la réparabilité de nos produits et quelque part, de manière indirecte, tout ce qui permet aussi qu'ils soient revendus. On ne le fait pas forcément dans cette optique-là, mais les systèmes de garantie, de traçabilité, etc., d'authentification. Donc, c'est tous les sujets sur lesquels on travaille et qui sont importants pour la seconde main.
Bonjour. J'ai une autre question. Parce que vous êtes une maison et vous êtes aussi partie d'un groupe. Et comment vous faites pour que ça marche d'avoir votre stratégie RSE, celle du groupe, que ça s'aligne, mais vous avez aussi, vous, vos priorités? Oui.
Effectivement, ça a été aussi un des enjeux au moment d'écrire notre stratégie RSE. Il fallait bien évidemment qu'elle soit cohérente avec celle du groupe. Après, on est dans un groupe où chaque maison a une très forte autonomie. Après, à la fin, il faut que ça matche. Mais il y a une telle diversité de maisons, de produits, mais donc aussi de matières premières, de chaînes d'appro, etc., qu'on a vraiment beaucoup d'autonomie au niveau de chaque maison pour viser les sujets qui sont les plus pertinents par rapport aux valeurs de la maison et à ses produits, ses matières, etc. Donc ça se fait, je dirais, assez naturellement. Et c'est vrai que quand vous regardez les différentes maisons du groupe LVMH, les sujets RSE qui sont pris en priorité sont très variés. Mais parce qu'évidemment, quand on travaille la vigne ou quand on manufacture une montre, on n'en a pas tout à fait les mêmes problématiques.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est il y a un cadre qui a été défini par le groupe qui s'appelle Life 360, hein, qui est public, que vous pouvez regarder sur Internet. Et dans les documents internes, en fait, ça donne des grands objectifs. Par exemple, d'ici 2000X, chaque maison doit avoir un programme d'économie circulaire. Mais donc, du coup, ça laisse un grand champ à chacune des maisons, en fonction de son industrie, de mettre en place le bon programme. En tout cas, ils doivent mettre en place ce programme. Et donc, il y a une vraie, pour le coup, avec un regard extérieur, il y a chaque maison, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, vous faites. Et là, pour le coup, il y a un vrai reporting qui se fait sur qu'est-ce que vous faites. OK, on vous donne on veut que vous ayez ce type de programme, et à vous de l'exprimer en fonction de l'ADN de votre maison.
C'est très bien dit.
Merci. Bonjour. Notre question ?
Oui, ouais. Valérie Taubois, je suis consultante en RSE et je donne aussi des cours en sustainable marketing. Et du coup, ma question, c'est comment allez-vous valoriser votre démarche auprès de vos clients ?
Alors, pour le moment, nous travaillons notre démarche et une fois qu'on aura un peu plus avancé, on verra comment on la valorise auprès de nos clients. Mais là, on est vraiment sur une phase de travail interne avant de communiquer quoi que ce soit.
Oui, il y a un vrai principe. Alors, je ne sais pas si c'est le principe suisse, savoyard ou les deux.
Jurassien, pardon.
Oula, merde. Non, mais d'humilité. On veut walk the talk avant de commencer à en parler dans tous les sens. Encore une fois, avec un regard de neutre externe, il y a un vrai chantier. On parlait des T0 tout à l'heure. Donc il y a une remise à plat de pas mal de données. Ça y est, les briefs sont partis. Il y a eu des ACV qui ont été faites. Il y a eu deux ACV complètes sur deux montres. Le bilan en carbone scope 3, évidemment, est lancé. Et donc, tout ce qu'on a appris de cette démarche-là a généré des nouveaux briefs qui sont entre les mains de ce qu'on appelle le produit, le marketing produit. Et donc, dans ce qui va sortir dans les années à venir, que ce soit montre classique ou il y a également des montres connectées, ça doit prendre en compte maintenant plein de critères RSE dans le développement PAC, enfin dans les développements eux-mêmes, quoi. Donc, à date, Valérie, pour répondre à ta question, il n'y a pas encore de valorisation parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez. Enfin, le chemin, c'est vraiment le début du chemin, quoi.
On n'a pas voulu faire le bracelet en plastique recyclé des océans, par exemple, tant qu'on n'avait pas plus à raconter.
Et par contre, juste en termes de démarche, le fait d'avoir interrogé les parties prenantes, c'est une démarche déjà de communication. Alors, on ne l'a pas fait pour la com, Mais c'est juste, en fait, quand vous sollicitez vos parties prenantes, si vous le faites bien, si vous montrez à vos parties prenantes que vous avancez, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout de suite derrière, ça s'est suivi de réunions. Peut-être que tu peux raconter les réunions que Marc a faites.
Oui, mais là, dans la foulée de la consultation, quand on a commencé à travailler vraiment sur les sujets 2023, tout le volet fournisseur était effectivement un des gros sujets. Et non seulement on a fait un forum fournisseur où on avait des ateliers RSE avec eux parce que ça nous semblait vraiment important d'en parler avec eux dès l'amont et donc typiquement de voir avec eux s'ils étaient dans quelle direction ils étaient déjà engagés, si dans les certifications il y en avait certaines qui étaient déjà massivement présentes chez eux. Et effectivement, c'est un des retours qu'on a le plus eu à cette occasion-là, c'est nous dire s'il vous plaît coordonnez-vous, quoi. On ne peut pas travailler si on a un client qui nous demande telle certification, un autre une autre. Enfin voilà. Donc, c'était très important de prendre leurs inputs dès le tout début. Et puis dans la foulée derrière, ils ont vu qu'on intégrait les critères CSR. On avait déjà un certain nombre de choses qui existaient chez Tag Heuer, notamment sur l'éthique. Ils ont vu qu'on intégrait des critères environnementaux aux questionnaires qu'ils avaient l'habitude de recevoir et qu'on les interrogeait sur la recyclabilité des matières, sur que derrière, ça se transformait concrètement en action tangible dans la relation qu'ils avaient avec Tag Heuer.
D'autres questions ? Oui.
Les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes d'ailleurs, parce que bon, au début, réunion tous les 15 jours, mais après ça s'espace, certains projets sont achevés. Donc comment vous avez maintenu avec les parties prenantes internes et externes le lien?
Alors, avec les parties prenantes externes, on n'a pas maintenu le lien avec tous ceux qu'on a interrogés dans la consultation. Après, ça se fait quand même assez naturellement parce que, comme ce sont nos parties prenantes, on a des points de passage réguliers sur un sujet ou sur un autre. Donc, ça ressort toujours dans la relation. En fait, ça s'intègre naturellement dans la relation qu'on a avec eux. Et ceux qui sont impliqués en interne, c'est par la gouvernance qu'on a mise en place, qu'on a continué à travailler avec ces personnes-là qui restent impliquées sur le projet.
Ouais.
Numérique pour
Non, pas à ce stade. Alors, on a des projets d'outils numériques sur l'éco-conception, mais pour le moment, c'est pas encore en place.
Merci à tous. Alors, juste un merci déjà à Marion. Merci.
Merci à tous.
Il y a ce petit QR code que vous pouvez flasher, c'est juste pour nous dire votre avis sur la conférence, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde l'année prochaine. Si vous avez envie de nous écrire, vous pouvez écrire à contact@hatch.fr. Et puis sachez qu'on a une dernière conférence tout à l'heure avec Géraldine, qui est la directrice RSE de Fnac Darty à l'Agora. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Merci beaucoup et bon après-midi à tous.